Woke, connaissez-vous le mot avec un E, l'adjectif à ne pas confondre avec le woke, la poêle. Être woke, je suis, tu es, il est woke, éveillé. Ignoré du dictionnaire de l'Académie française, du Grand Larousse ou de France Terme, il est pourtant là, partout, à l'œuvre ou à la manœuvre.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Un mot et un isme, le wokisme, c'est l'une des tendances idéologiques du moment qui s'invite dans les universités, le débat public et dans la littérature avec ce nouveau roman d'Abel Quentin, Le Voyant des Tempes. Bonjour Abel Quentin.
Bonjour Pascal Paradou.
Avocat et écrivain, vous voilà présenté comme l'auteur d'un roman sur le wokisme. Est-ce que c'était l'intention ?
Ça n'était pas la seule intention, je vous sais un peu réducteur, mais ensuite les livres, quand ils sont écrits, appartiennent aux lecteurs et donc toutes les lectures sont possibles. J'ai voulu faire un roman, donc un roman, pour moi, ça n'est pas un texte à thèse, ça n'est pas un essai. La volonté d'aller vers le roman, c'est précisément, je crois peut-être, cette sagesse de l'incertitude dont parlait Kundera. C'est pas d'asséner une vérité. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une petite musique dans mon roman avec sans doute une défiance, c'est vrai, vis-à-vis de certaines tendances intellectuelles, de certaines dérives, ça bien sûr, mais surtout une méfiance vis-à-vis des meutes.
Alors, il faut quand même préciser le mot, puisqu'il va revenir, je pense, au cours de cet entretien. Woke, c'est être conscient des inégalités qui pèsent essentiellement sur les Noirs. On est d'accord sur cette définition ?
Sur les Noirs et sur les minorités. Hein. Ça peut être également des minorités sexuelles. Voilà. Donc, c'est en effet le fait d'avoir comme lecture de la société les rapports de domination et les discriminations.
Vous êtes woke ? Vous ?
Non, je ne suis pas woke. Je ne suis pas woke parce que le wokisme, c'est une lecture univoque du monde. C'est peut-être nier la singularité des individus. Et sans doute, s'il y a quelque chose qui est au cœur de la démarche de tout romancier, je crois, c'est le fait de mettre à jour les singularités, justement, plutôt que des catégories théoriques. Donc moi, je crois... au particulier, je crois à la singularité, et voilà.
Donc le wokisme est une idéologie ?
C'est un courant de pensée. Après, c'est un courant de pensée qui vient de les campus américains, alors qui nous revient en réalité. Certains expliquent que ça vient des campus américains, mais qu'eux-mêmes l'avaient quelque part un petit peu pompé sur la French Theory avec Derrida, avec les déconstructivistes. Mais c'est un courant de pensée qui vient des campus américains et qui a ses auteurs et qui a ses références. Et donc, moi, j'ai pas voulu faire juste une satire. J'ai essayé aussi de lire ces auteurs-là, de comprendre ce courant-là, voilà, de faire ce travail sérieusement. Mais c'est une idéologie, c'est un courant de pensée.
Qui peut être dangereux pour vous, pour votre personnage.
Toute pensée de système peut être dangereuse. La pensée de système, c'est d'expliquer tout avec une grille de lecture. Je crois que par exemple, la pensée marxiste... Alors, les pensées de système ont aussi une séduction. C'est un système clos qui est cohérent, donc qui présente une forme de séduction, mais elle a sa limite parce que je crois qu'il y a des phénomènes, par exemple, qui échappaient à la grille d'analyse marxiste, et je crois qu'il y a beaucoup de phénomènes qui échappent à la grille d'analyse woke.
Votre personnage, en tout cas Jean Roscoff, n'est pas du tout woke, un peu comme vous, mais les ressemblances vont peut-être s'arrêter là, puisqu'il s'agit d'un universitaire à la retraite qui décide d'écrire la biographie d'un poète américain, Robert Willow, en négligeant qu'il est noir, mais en insistant sur son engagement en faveur du communisme. Mais alors, ça ne va pas passer du tout. Pour Roscoff, en fait, Willow peut être noir accessoirement.
Oui, alors, la formule, elle peut paraître provocatrice, oui. Mais moi, je ne suis pas contre qu'il y ait un peu de provocation parfois en littérature. Lui, c'est un professeur d'université qui est un historien qui est spécialiste de la chasse aux sorcières, du McCarthyisme, donc ce mouvement d'anti-communisme hystérique des années 50 aux États-Unis. Et donc, lorsqu'il s'est intéressé à ce poète, Robert Willow, il a vu le communiste, mais il n'a pas vu le noir. Pour lui, c'était quelque chose d'accessoire dans la construction de son identité. Alors, est-ce qu'il a eu raison ? Est-ce qu'il a eu tort ? Mon narrateur, c'est un des enjeux du roman.
Mais tous les militants woke, tous les militants antiracistes s'émeuvent et cela crée un énorme scandale. Et d'un livre imprimé à 800 exemplaires chez un petit éditeur tout à fait inconnu, cela va devenir un best-seller à 30 000 à cause du scandale. Et bien sûr, Roscoff est accusé de racisme alors, et c'est là où c'est passionnant, que c'est un ex-militant de SOS Racisme. C'est-à-dire que dans les années 80, il est profondément antiraciste en pensant que la race n'existait pas. Et le voilà rattrapé par les mouvements wokistes qui lui disent « Mais non, vous êtes, vous, le blanc raciste. »
Oui, il vient d'SOS Racisme, il vient de la gauche mitterrandienne et il croyait être immunisé par ses combats passés. Mais il s'aperçoit à 65 ans qu'en réalité, l'antiracisme a changé de visage, que le lexique a changé, que les slogans œcuméniques « On est tous des enfants d'immigrés » ont laissé la place à d'autres mots. On parle de privilège blanc, on parle de fragilité blanche, on parle d'intersectionnalité. Et à l'aune de ce nouveau vocabulaire, même quelqu'un qui ne croit pas être raciste peut participer au racisme systémique et peut être à son corps défendant raciste. Et donc c'est ça qu'il va découvrir avec effroi. Mais c'est un livre aussi où on rit, donc c'est aussi le prétexte pour un certain nombre de gaffes et de moments comiques.
Le voyant des tempes est donc le double portrait, celui d'un poète et de son biographe, mais aussi la mise en perspective, le face-à-face entre deux époques, les années 50 et la nôtre, avec un récit que l'on ne lâche pas jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière page pratiquement, avec un rebondissement. Donc on n'a pas encore tout dit, nous reprenons cette conversation après San Severino, les deux doigts dans la prise.
Simpliste, mais ça nous élève au rang des animaux. Je ne suis pas taxidermiste, ce que je veux, c'est ce qu'il y a sous la peau. Réagir à ses sensations, écouter ses réactions, ne pas piloter ses idées et laisser le flux arriver. Je suis souvent surpris par ce que j'entends, je voudrais ne pas juger, mais en même temps, souvent ce que la musique me fait, c'est qu'il y a toujours un truc qui me déplaît. Un coup c'est la batterie, puis le coup d'après c'est le son. J'aime pas la guitare et puis ça manque de fond. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir faire? Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir faire? Ce sens d'être un amour critique reste malgré tout absolument secret. La solution, c'est qu'il faut s'ouvrir. Il faut lâcher, savoir mettre, de temps en temps, les deux doigts dans la prise. Ma propre impuissance, l'humilité ma fille où j'en ai jamais eu. Je vais finir dans une ambulance, la camisole sanglée est bien faite pour mon cul. Je me sens à tous les coups ridicule, la patience me manque, ça m'énerve. Si un truc me résiste, il va finir, c'est sûr, il va finir explosé dans le mur. Et puis ça tombe, et je culpabilise. J'essaie de regarder ce que les choses me disent, mais fais quelque chose de tétard, oui, mais je sais qu'il est déjà trop tard. Je regrette, me dis qu'il faut changer, je me rappelle des conseils que j'ai déjà donnés. Impossible de me les appliquer, impossible de me les appliquer à moi-même. Ce sens étonnamment critique reste malgré tout absolument secret. La solution, c'est qu'il faut s'ouvrir, il faut lâcher, savoir mettre, de temps en temps, les deux doigts dans la prise.
San Severino sur RFI avec son nouvel album et ce titre Les deux doigts dans la prise, et Abel Quentin avec son nouveau roman Le voyant des tempes, second roman de ce jeune auteur, roman assez caustique sur la question du racisme, du wokisme et de l'appropriation culturelle. Alors dit comme cela, cela pourrait ressembler à un roman à thèse, mais pas du tout. C'est plutôt un roman assez caustique avec un narrateur finalement, Abel Quentin, assez attachant. Pourquoi est-il si attachant ? Parce qu'il est sincère ?
Oui, c'est vrai. En tout cas, il a des moments de sincérité. Ce n'est pas le cas de tous les personnages Dans le roman, son copain, par exemple, Marc, son meilleur ami, est quelqu'un de plus calculateur, de plus lâche aussi. Enfin, en tout cas, qui va le lâcher quand les choses vont se compliquer. Et c'est vrai que c'est un ivrogne aussi. Moi, je pense que fondamentalement, on a la sympathie pour les gens qui boivent énormément, en tout cas, parce que ça conduit parfois à dire des vérités comme ça, un peu comme une sorte de Diogène qui apostropherait les puissants. Voilà, il a ce côté comme ça.
Pourtant, il ne fait pas très très envie, hein, tel que vous le décrivez. Retraité, divorcé, alcoolique, bedonnant, vous avez cette formule terrible, la promesse non tenue. Parce qu'il est brillant.
Oui, au début des années 80, c'est un jeune qui a le vent en poupe, c'est un séducteur, c'est un normalien, et puis la vie a fait son œuvre, donc il a été un petit peu placardisé à l'université, il a fait un bouquin dans les années 90 qui n'a pas marché, sa femme l'a quitté, donc c'est une promesse non tenue, et c'est un homme qui est assez lucide face à ce constat, et peut-être que c'est aussi sa lucidité qui le rend sympathique, il ne se ment pas lui-même, c'est un homme fraternel aussi.
Et s'ennuyant, il va donc s'intéresser à un poète tout à fait inconnu, Bob Willow, qui finira sa vie à Étampes, dans la région parisienne. Personnage assez énigmatique, mais Roscoff est donc aimanté par sa poésie. Vous avez eu un modèle pour ce poète Willow ?
Il y a plusieurs modèles. Il y a eu quand même pas mal, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez, d'auteurs noirs américains qui ont choisi la France dans les années 50. Et il est notamment question dans mon livre de Richard Wright, l'auteur de Black Boy, James Baldwin. Et puis voilà, il y en a d'autres. Et bon, ça fait partie des modèles. C'est vrai.
Qui a écrit Armstrong aux lèvres fendues, tes lèvres saignent et les cœurs fourbus s'apaisent, chaque note se paie de ton sang vermillon, joue Armstrong. C'est Willow.
Eh bien, c'est Robert Willow.
Mais c'est Bob vous. Willow. C'est vous ou c'est un poème emprunté? Parce que j'ai presque eu envie d'aller chercher si Bob Willow, vous voyez, chercher sur Internet, ouais, si Bob Willow avait réellement existé ou pas.
Bah, je laisserai vos auditeurs découvrir. Surtout pas divulgâcher quoi que ce soit. Et j'espère qu'ils liront sans googliser. Surtout pas.
Alors, vous évoquiez James Baldwin il y a quelques secondes. Et c'est vrai que ce roman, donc, du fait de Robert Willow, se déroule en partie dans les années 60, où l'existentialisme, encore un mot en isme, enflammé Saint-Germain-des-Prés et la pensée française, ces années de jazz et de la présence de quelques intellectuels noirs américains comme Baldwin, même s'il arrive un petit peu plus tard. Noir, poète, homosexuel, francophone, américain, je ne sais pas quel est le mot et la qualité qui doivent être mis en avant, mais en tout cas, Baldwin avait une expérience et une conscience assez claire du racisme.
Le racisme est basé carrément sur la question du pouvoir. Le racisme commence à un moment donné que vous avez le pouvoir de me définir. Un tel pouvoir que moi je ne vais pas échapper à votre définition. Et c'est ça le racisme qui crée une espèce de réponse épouvantable aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais absolument fatale. Parce que pour lutter contre votre définition, pour respirer, pour te faire comprendre que je ne sais pas du tout ce que tu veux dire que je suis, il faut carrément que je vous attaque. Il faut que je l'attaque pour être né dans le monde. Et ce moment-là, c'est vous aussi qui êtes en train d'être né. Mais c'est beaucoup plus pénible pour vous parce que vous pensez que vous avez beaucoup plus à perdre que moi.
James Baldwin en 1975, et c'est cette réflexion-là sur le racisme que votre personnage Jean Roscoff réfute quand il fait le portrait de Willow, provoquant un scandale sans précédent qui commence par les réseaux sociaux et qui enflamme la totalité de la presse et des médias. Abel Quentin, face à ce phénomène Internet, Facebook, Twitter et autres, vous avez quel âge? Parce que vous semblez plus effrayé encore et plus critique que votre personnage qui a 65 ans.
Ouais, c'est vrai que je me méfie de la modernité. Je crois que il y a tout lieu de s'inquiéter quand on voit la place que prennent les réseaux sociaux, quand on voit aussi renaître cette civilisation de la polémique et de l'injure dont parle Camus dans les années 40. Alors Oui, c'est vrai, j'ai pas l'âge de mon personnage, en tout cas j'ai ces inquiétudes.
Vous parlez des braconniers d'Internet, d'un monde de silhouettes, citant Camus ouais. d'ailleurs, où la haine le dispute au narcissisme.
Oui.
Il n'y a rien d'autre à dire.
Oui, ce mot de Camus qu'il a prononcé, alors je ne sais plus d'ailleurs s'il a prononcé dans une conférence ou dans un article de Combat en 43, enfin ce mot de Camus, le monde de silhouettes, il m'a beaucoup frappé parce que je trouve qu'il prend une résonance nouvelle aujourd'hui, avec cette idée que lorsqu'on est planqué derrière un pseudo, celui qu'on va agonir d'injures sur les réseaux sociaux, il n'a plus de visage en fait, c'est ce que dit Camus, il n'a plus de visage, c'est une silhouette, et une silhouette c'est bien plus facile de s'en prendre à une silhouette qu'à un visage, et je trouve que c'est quelque chose de terrible en fait.
Vous parlez aussi des pensées rachitiques des réseaux sociaux.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose de très intéressant en 544 signes ? Vous de me le dire, mais je ne crois pas. Je crois que la pensée, elle demande du temps, elle demande de se déployer, elle demande un espace que ne peut pas lui offrir Twitter.
Et c'est peut-être pour ça que vous écrivez des romans qui font un peu plus de 300 pages.
Ouais.
Parce qu'il y a de l'espace
ouais,
pour
exactement.
La pensée. Est-ce que c'est un espace de radicalité où les mots justement perdent leur sens ? Est-ce que c'est un tribunal populaire ? Et je m'adresse là en partie à l'avocat que vous êtes, Abel Quentin, quand on appréhende Internet.
Moi, je crois qu'Internet est une promesse pour le coup, comme mon narrateur est une promesse non tenue, au sens où on nous a promis, on a cru, et je pense avec beaucoup de bonne foi et d'espoir, que ce serait une sorte de large agora qui permettrait aux gens de dialoguer. Et sans doute que ça, notamment les réseaux sociaux, ils ont par exemple permis le printemps arabe en 2011, donc dans certaines circonstances ils ont vraiment des vertus émancipatrices, mais à part ces quelques cas, je crois qu'aujourd'hui cette promesse elle est non tenue, parce qu'en réalité on a un archipel de communautés qui ne discutent qu'entre elles, et que il y a aussi ce phénomène implacable des algorithmes qui fait que aujourd'hui on vous propose des contenus sans même que vous en aperceviez, qui sont conformes à vos préjugés, donc ça vous amène à être dans l'entre-soi, et donc je crois que c'est inquiétant.
Alors, je ne sais pas quand vous avez écrit ce roman, Le Voyant des Tempes, mais une affaire a défrayé la chronique au tout début de l'année 21. C'est l'affaire Amanda Gorman, donc cette poétesse noire américaine, pour qui s'est posée la question de la couleur de peau et de la sensibilité quand il s'agit de la traduire, puisque la toile s'est enflammée contre une traductrice néerlandaise blanche accusée d'appropriation culturelle. Ça a alimenté en partie l'écriture du livre ? Parce qu'il y a une scène qui y ressemble.
Hein. Ouais, non, parce que c'est vrai que le livre, il était pas loin d'être plié. Donc, mais en tout cas, ce climat d'intrusion finalement de la cancel culture dans la littérature, dans la fiction, le fait que aujourd'hui se pose de plus en plus la question, notamment aux États-Unis, est-ce qu'on a encore le droit de parler d'autre vie que la sienne, est quelque chose, oui, qui me perturbe aussi. Voilà, c'est pas si récent que ça d'ailleurs. Je me souviens en 2019, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt un article d'une écrivaine qui s'appelle Zadie Smith, qui s'appelle In Defense of Fiction, en défense de la fiction, dans la New York Review, où avec pas mal de courage, elle disait attention. Enfin, est-ce que cette liberté-là, elle n'est pas en danger, quoi ? Et parce qu'aujourd'hui, alors, de façon plus ou moins insidieuse, de plus en plus se pose la question de « mais d'où parles-tu, quoi ? Es-tu légitime à prendre le point de vue d'autrui dans un roman ?» Et j'espère que ce sera toujours le cas.
C'est un peu la question qui se pose, enfin c'est totalement même la question qui se pose dans ce roman Le Voyant des Tempes, puisque le narrateur biographe n'étant pas noir ne voit pas que son sujet est noir, alors qu'il est plutôt de gauche sans être tout à fait communiste, et voit chez le personnage de son roman le communiste qu'il est réellement.
Bien sûr.
Willow était communiste.
Il était communiste. Alors, la question c'est est-ce qu'une identité l'emportait sur l'autre ? Ça c'est... Voilà, mon narrateur, il spécule, il tente quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'est trompé ? Ça, c'est le... Voilà, je ne veux pas trop en dire, mais en tout cas, il ne comprend pas qu'on lui interdise de spéculer avec bonne foi au sujet d'un auteur qu'il aime, parce que tout part d'une fraternité littéraire, d'une admiration littéraire. Il a aimé les poèmes de Willow, et je crois que une œuvre littéraire, elle appartient à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien l'aimer. Et, et en plus, ce qu'il perçoit comme une injustice, c'est qu'il est attaqué par des gens qui, pour le coup, n'ont souvent pas lu une seule ligne de ce poète que lui, il aime tant, et puis il aime tant depuis 40 ans quand même.
Mais sa victoire est que, sans divulgâcher le roman, Willow a des lecteurs, trouve des lecteurs grâce à ce scandale et à cette polémique.
C'est ça, c'est l'espèce de morale un peu paradoxale, c'est qu'il y a parfois des vertus au bad buzz, comme on dit.
Alors cette affaire Goldman que l'on évoquait il y a quelques minutes a suscité beaucoup de réactions du milieu intellectuel, dont celle d'Alain Mabankou, qui est congolais, vivant aux États-Unis, écrivain, musicien, grand sapeur devant l'éternel, et noir aussi.
Si vous connaissez l'histoire littéraire, si on s'en rappelle, certaines des grandes œuvres de la littérature africaine ont été traduites par des Blancs. Raymond Queneau a traduit « L'ivrogne dans la brousse » d'Amos Tutuola. Je ne parle même pas d'André Breton qui a fait la préface du cahier d'un retour au pays natal. Ou bien même du même Queneau qui nous a donné la première anthologie dite nègre. La littérature grandit parce qu'elle traverse les frontières. La littérature ne devrait pas être tributaire d'une certaine couleur. Et cette polémique, au lieu de grandir l'œuvre de celle qui pourrait devenir une des grandes poètes de notre époque, est plutôt en train de chercher à l'enfermer dans cet instinct grégaire qui est incompatible avec la force de la littérature. Et c'est cela le désastre auquel nous assistons, hélas.
Abel Quentin, que faut-il être pour vous traduire en anglais, en espagnol, en néerlandais, que sais-je?
Moi, ce que je viens d'écouter, évidemment, ça me parle immédiatement. Je crois que c'est très important que la littérature reste un langage universel. On aurait pu aussi parler de Sartre qui fait l'Orphée noir et qui a été un passeur des écrivains de la négritude. Alors par contre, il faut que ce soit dans les deux sens, bien sûr. Ça, c'est une inquiétude légitime. Évidemment, il faut aussi que les auteurs blancs soient traduits par des auteurs qui ne le soient pas. Alors que faut-il être bon traduire? Je sais pas. En tout cas, il faut avoir aimé tout simplement mon livre. En fait, c'est lorsqu'on aime un livre, je crois que la traduction sera forcément... Il y aura une compréhension de l'œuvre littéraire qui est traduite. Et donc, c'est ça le vrai critère. Et donc, Amanda Borgorman, bien sûr qu'elle pouvait être traduite par une néerlandaise si cette néerlandaise, elle avait ressenti des émotions en lisant son texte.
Qui était par ailleurs une très grande poète néerlandaise. Mais faut-il être, pour vous traduire, légèrement pessimiste, agréablement pessimiste?
Ouais, sans doute. Ouais, non, mon livre, c'est pas le monde des bisounours, c'est clair. C'est pas l'île aux enfants, quoi.
En tout cas, c'est une écriture qui est très, très proche du réel, qui est inscrite dans le contemporain, parfois le moins romanesque possible, où les ventes d'appartements se font avec des agents immobiliers, Stéphane Plaza, dont vous dites que l'agent immobilier qui va donc vendre à votre personnage Roscoff, ou qui veut vendre à votre personnage Roscoff, l'ancienne maison de Willow à Étang, ce qui explique un peu le titre, que cet agent immobilier a le sourire forcé ou perce le désespoir.
Alors, le moins romanesque possible, je suis pas forcément d'accord, parce que je pense qu'il y a un romanesque du quotidien. Hein. C'est quelque chose qui a été découvert peut-être avec Flaubert à la fin du 19e siècle. C'est que le quotidien, le trivial, le non-épique peut être romanesque. Et donc, oui, moi j'aime bien qu'il y ait du trivial, j'aime bien qu'on parle vente d'appartement, qu'on parle débit de compte débiteur ou des choses très. Ou marque de bière, etc. C'est quelque chose qui crée aussi un effet de réel, peut-être. Et oui, c'est vrai que cet agent immobilier, il est à la fois désespéré, à la fois un peu grotesque, à la fois comme nous tous, quoi.
Abel Quentin, j'aimerais que vous nous lisiez, juste pour qu'on se rende compte justement de votre causticité parfois, un très court extrait de ce roman, c'est le portrait de Roscoff, donc votre personnage biographe.
J'étais un sexagénaire aux jambes maigres, avec une bedaine. Morphologiquement, je ressemblais à un poulet à bicyclette. Il ne me restait guère plus qu'une niche, celle des étudiantes en lettres modernes désireuses de scandaliser leur monde en se mettant à la colle avec un vieux, voire de se laisser prendre au charme sophistiqué d'un cheval de retour aux airs de droupie neurasthénique, le genre qui en pince pour Woody Allen. À Paris 8, j'en avais croisé quelques-unes dans les couloirs. Elles sont bipolaires et ardentes, raffolent des films de Gaspard Noé ou de Béatrice Dalle,
placardent sur leur frigo d'adolescente le portrait de Rimbaud par Nadar et racontent à qui veut l'entendre qu'elles mourront à 27 ans. Elles peuvent vous poignarder pendant l'amour avant de fondre en larmes et d'appeler les pompiers. D'aucuns diront qu'elles sont casse-couilles, d'autres qu'elles sont intégrales. Je n'avais plus la force de cela.
Abel Quentin, extrait de ce voyant des tempes, on pense un peu à Houellebecq, vous citez aussi Flaubert et Camus, vous situez où dans ces propositions-là et dans cette sphère de pensée, toujours un peu pessimiste hein.
Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est des, pour moi, c'est des références, c'est des sommets, et donc je me situe certainement dans une veine réaliste, une veine... Et puis, ouais, pessimiste, c'est sûr. Je crois que... La naïveté, les bons sentiments, bon, c'est la fameuse phrase de Gide, les bons sentiments font la mauvaise littérature. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui me parle. Ouais.
En tout cas, vous sauvez, plus ou moins, votre personnage sexagénaire, bedonnant et alcoolique.
Oui, j'aime bien. C'est un personnage que j'ai façonné avec tendresse. Et donc, tant mieux si cette tendresse, elle perce dans l'écriture. C'est un homme qui aussi essaye de penser contre lui-même. C'est un homme qui fait preuve d'autodérision. C'est quelque chose qui est important. Pour moi, l'autodérision, c'est peut-être ce dont manque cruellement ses détracteurs. Et voilà, il est à l'âge amer des premiers bilans. Et voilà, tout n'a pas été rose, mais il continue à combattre à sa façon, maladroitement.
Est-ce que je peux m'étonner avec une question un peu idiote, mais pourquoi un auteur de 30 ans écrit le portrait d'un homme de 65 ?
Eh bien, c'est de l'appropriation générationnelle. Comme il y a l'appropriation culturelle, il faut tout s'approprier. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans cet extrait que vous nous avez passé. Il faut, les destinées appartiennent à tout le monde. En tout cas, un romancier doit pouvoir se mettre à la place de personnages divers. Mon premier livre, je faisais parler une adolescente de 15 ans. Ce nouveau personnage, il a 65 ans et ça demande... de faire un effort sincère, de se mettre à la place de l'autre, de se renseigner, de se documenter, j'ai pas encore fait de personnage de trentenaire. C'est
un roman s'écrit comme une plaidoirie, Abel Quentin ?
Non, c'est très différent. C'est très différent parce que, précisément, dans la plaidoirie, le verbe est, alors, je ne vais pas parler de façon pompeuse, mais enrôlé, enfin, est au service de la défense de quelqu'un. Et alors que l'écriture d'un roman, enfin, pour moi, le roman, c'est mettre à jour des contradictions, c'est ne pas nécessairement aller dans une direction claire. C'est le territoire de l'équivoque, c'est le territoire de l'incertitude. La plaidoirie, ça ne peut pas être l'endroit de l'incertitude.
Mais ça joue sur l'émotion aussi un peu et sur le sensible.
Et ça, oui.
Et ça suppose de connaître bien son personnage.
Oui, c'est vrai. Ça suppose d'essayer de faire vivre quelqu'un. Et d'une certaine façon, oui, je veux défendre mon personnage. Ce personnage-là, en tout cas, j'avais peut-être, par exemple, c'était peut-être moins le cas de mon personnage dans Danseur, mon premier roman. J'avais peut-être moins de tendresse pour elle. Mais ce personnage-là, j'ai envie de le défendre. Et donc, j'ai eu envie de le rendre aimable, même s'il est agaçant, même s'il n'est pas possible aussi. On comprend pourquoi sa femme, elle a essayé elle l'a largué, parce qu'il est invivable. Et en même temps, voilà, on en connaît tous des gens qui sont invivables. Et en même temps, vous ne pouvez pas ne pas vous attacher, quoi, d'une certaine façon.
Merci beaucoup, Abel Quentin.
Merci.
Le Voyant des Tempes est publié aux éditions de l'Observatoire. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.